confidentiel. RTL. Ophélie Meunier.
Bonjour Guillaume Canet.
Bonjour.
Bienvenue dans Confidentiel sur RTL. Guillaume Canet, c'est la plage, jeu d'enfant, mon idole, ne le dit à personne, les petits mouchoirs, Japlou, Joyeux Noël, Rock'n'Roll, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, je vais pas tous les citer, multi-récompensé, césarisé. Vous êtes un prince dans le cinéma français, Guillaume Canet, mais oui, il y a encore des gens qui vous font rêver, qui vous font envie, je vous cite. Cela faisait des années que je rêvais de tourner avec Stéphane Brisé. Équipe géniale, scénario sublime, en duo avec la merveilleuse Alba Rohrwacher. Je suis très fière de jouer dans ce magnifique film. Bah dis donc.
Ouais.
Tout ça, ce film hors saison.
C'est toujours très très agréable de vivre une belle aventure avec un metteur en scène qu'on admire, avec qui on a envie de travailler depuis très longtemps, ce qui était le cas. D'ailleurs, j'avais un rapport avec lui très étrange parce que on se connaissait pas, mais on échangeait beaucoup par texto. Il a eu la gentillesse un jour de m'envoyer un message suite à un film que j'avais fait. Et du coup, moi, j'ai suivi aussi ses films. On s'invitait aussi l'un et l'autre aux projections de presse, des fois que l'on avait. On allait se fondre comme ça dans la salle pour essayer de voir le film et le travail de l'autre. Et c'est quelque chose de très appréciable et qui est assez rare dans le métier, dans le cinéma français, en fait. C'est un réalisateur qui est un cinéaste d'auteur, si on peut appeler ça comme ça. Après, c'est compliqué toujours de donner des noms comme
mettre
ça.
Mettre dans des cases, mais ouais.
Ouais, mais dans des cases, mais c'est quelqu'un d'extrêmement éclectique et qui s'intéresse à toutes les formes de cinéma, au cinéma populaire, à plein de formes de cinéma. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude, d'ailleurs, de dire aux gens quand il aime leur travail. Et ça, je trouve ça très appréciable dans un métier qui se regarde quand même beaucoup le nombril.
Quelqu'un d'humain, quoi, en fait.
Ouais. Donc j'étais très heureux de tourner avec lui, et c'est vrai que voilà, j'ai fait la rencontre d'Alba qui est extraordinaire. Et puis le scénario, tout ce qu'on avait à jouer. Je trouve que c'est un film qui est dans la lignée des grands films de Sauté, de tous ces films-là, et c'est un film qui reste, et je pense qu'il
va rester. Et ça nous manque, les films de Sauté, beaucoup. Enfin bon, on peut encore les voir, mais en tout cas des nouveaux. Alors, Hors Saison sort ce mercredi 20 mars dans les salles. Voilà l'histoire, quand même, pour nos auditeurs. Vous êtes Mathieu dans le film. Alors, c'est un prénom, en fait, qu'on n'entend jamais. Mais bon, en tout cas, vous êtes Mathieu. Vous êtes un acteur très connu, qui a beaucoup de succès. Vous frôlez la cinquantaine. Bon, ben, jusque-là,
tout va bien.
C'est à peu près vous. Dans le film, vous êtes marié avec la présentatrice star du JT, qui est jouée par Marie Drucker, mais qu'on ne voit jamais, on entend sa voix. Évidemment, donc elle est très connue, elle aussi. Et puis, vous avez un gros coup de mou. À quelques semaines de jouer au théâtre, vous plantez tout le monde et vous partez faire le point plusieurs jours en thalasso, dans un bled paumé. Là-bas, vous retrouvez complètement, par hasard, votre amour de jeunesse. Et là, le temps des questions, le temps de la remise en question, des mises au point aussi. Au centre de ce film, Guillaume Canet, c'est la grande question des choix qu'on fait dans la vie, c'est ça?
Oui, alors c'est plusieurs choses. D'abord, c'est pas vraiment un amour de jeunesse, parce que c'est 15 ans plus tôt.
C'était 15 ans plus tôt, voilà.
Donc comme il a 50 ans, voilà, je précise.
Mais 35 ans, c'est hyper jeune.
Ouais, c'est vrai aussi. Non, je précise que c'est vraiment pas moi. Autant Rock'n'Roll était une satire un peu de ma et une parodie. Enfin, je me suis amusé avec cette image que les gens pouvaient avoir de moi ou de nous.
J'entends beaucoup, pardon, je fais une petite aparté, mais j'entends beaucoup que Rock'n'Roll, pour plein de gens, c'est leur film préféré de vous.
Ouais. Il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment ce film, et c'est marrant parce que avec le temps, plein de gens qui l'ont pas vu le voient, et c'est un film qui reste beaucoup dans la tête des gens, et c'est un film que j'apprécie beaucoup. C'est un film qui parle des choix. C'est un film qui parle d'un homme qui effectivement a quitté cette femme il y a 15 ans, peut-être pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire se disant que il se rend compte que c'est peut-être pas la femme avec laquelle il faut qu'il reste s'il veut la vie de célébrité, de notoriété, enfin de succès qu'il a envie d'avoir. Et je pense que c'est un homme, en fait, ça, pour résumer, je pense que c'est un homme qui voulait devenir connu et qui va devenir quelqu'un, qui va vraiment devenir un homme, en fait, qui va se rendre compte de cette décision, qui va se perdre dans un chemin. Mais ce qu'il y a de beau dans ce que ça raconte, c'est que quand on se perd dans un chemin, c'est important à un moment de regarder au moins là où on est arrivé. Et de regarder autour de soi dans ce chemin. Qu'on n'y soit pas allé pour rien.
Pour rien.
Voilà. Et que du coup, On peut toujours faire demi-tour et revenir, il est jamais trop tard. Et on a toujours appris quelque chose, et lui, il a appris quelque chose. Il a appris que d'avoir fait mal à cette femme, qui était peut-être la femme de sa vie, et il s'en rend compte, que finalement, ce à quoi il a aspiré pendant toutes ces années avec cette femme, une espèce de businesswoman très dure,
ouais.
Il se rend compte qu'il est pas du tout
elle
heureux.
Elle est sévère.
Il se rend compte qu'il est pas
elle
amoureux.
Dure avec lui, hein.
Qu'il est pas amoureux, qu'il est pas heureux. Et donc voilà. Et donc c'est.
Mais attendez, vous venez de dire quelque chose. Et d'ailleurs, on peut tous se projeter, se rendre compte que c'était peut-être la femme de sa vie et qu'il l'a quittée. C'est hyper dur de se rendre compte de ça quand même dans la vie.
Ah bah oui, bien sûr.
Faut l'assumer après derrière.
Ah bah oui, c'est évidemment, bien sûr, mais c'est la vie.
En tout cas, se rendre compte qu'on n'a pas fait ce choix pour rien.
Ouais, et puis on ne vit qu'une fois, donc j'en sais rien d'ailleurs si on vit qu'une fois, mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on ne vit qu'une fois, et c'est vrai que. Il est jamais trop tard pour se rendre compte des sentiments que l'on éprouve pour quelqu'un et que c'est tellement triste. Et d'ailleurs, le film en parle très très bien quand on a ce témoignage de Lucette, qui est une femme dans le film âgée qui est dans une maison de retraite et qui raconte finalement aujourd'hui sa vie, qui raconte sa vie, et finalement aujourd'hui on se rend compte qu'elle aime une femme et qu'elle est amoureuse et qu'elle est enfin heureuse et que elle a accepté cette vie toute sa vie qu'elle a vécue avec son mari, mais où elle s'est mariée parce que finalement c'était
on faisait un peu comme ça à l'époque,
voilà, et ça raconte quelque chose de vraiment sur toutes les générations, ça raconte quelque chose d'assez essentiel. Et d'ailleurs en tournée province, j'ai fait plusieurs dates là, et j'ai été assez étonné de voir le retour de beaucoup de jeunes, d'ados et de 20-25 ans qui sont vachement touchés par le film. Et j'ai l'impression qu'il y a une maturité aujourd'hui chez les jeunes, les ados et les un peu plus vieux, qui, je pense qu'avec la dureté aussi du monde qu'on leur laisse et ce à quoi ils s'attendent. Il y a une sorte d'un peu de blues et de questionnement, en tout cas existentiel, assez fort. Je l'avais vu d'ailleurs sur mon film Lui, où j'ai eu des témoignages très importants de gens.
On va en parler aussi de lui.
Où je pensais vraiment pas que c'était un film qui pouvait s'adresser à cette génération-là. Et là, ce film-là touche aussi les jeunes, en fait, et c'est assez troublant.
Parlez-moi de votre duo avec Alice. Oui. Alba Horvacher, celle qui joue donc cette amoureuse d'il y a 15 ans. Quand un film repose autant sur un duo comme ça, comment vous faites pour créer la complicité? Parce que là, elle est absolument merveilleuse à l'écran.
C'est quelque chose d'assez assez magique et assez fou. À la première scène, à la première prise, de voir qu'on a en face de soi une très très grande actrice. Et là, c'est un bonheur... C'est un bonheur, en fait. C'est un bonheur parce qu'on...
Elle est fabuleuse.
Voilà, et puis ça renvoie chez vous aussi quelque chose de fort dans le partage, dans le jeu. Et du coup, on joue mieux. On joue mieux, je pense.
C'est vrai?
Je pense que c'est comme...
Mais avec la carrière que vous avez, il y a encore un acteur ou une actrice qui peut vous aider à jouer mieux?
Oui, évidemment, bien sûr. Je peux vous citer des films dans lesquels j'étais vraiment pas bon.
Allez-y.
Vidocq, entre autres.
Je ne juge pas.
Mais c'est vrai que... Non, j'ai pris énormément de plaisir à tourner avec elle. Et puis, il y a quelque chose de... Ouais, de magique, je trouve que peut-être son accent, ce que ça raconte par rapport à ce personnage, ça renvoie aussi, comme je le disais, au film de Sauté. Moi, elle m'a fait penser à Romy Schneider dans César et Rosalie. Il y a plein de choses. Il y avait un charme fou. Et elle était marrante parce qu'elle avait tout le temps peur de ne pas être comprise avec son accent.
Ce qui n'est absolument pas le cas. Hein.
Non, on la comprend très bien.
Et puis c'est même très agréable à écouter.
On a été très, très complices, c'était très, vraiment très chouette.
Sans en dire trop, il y a notamment cette scène, je rappelle que vous êtes donc en thalasso hein, pour réfléchir et que vous faites des soins Et donc une scène, vous mettez des jambières, alors j'essaye de bien expliquer pour nos auditeurs, donc ces espèces de grosses jambières qui se mettent sur chaque jambe et qui se gonflent et se dégonflent, alors j'imagine que ça favorise la circulation, je sais pas.
Ça fait ça, ouais. Sauf que moi on l'a tourné pendant une heure et demie, et j'avais la tête qui tournait au bout d'un moment parce que je pense que ça m'envoyait trop de sang à la tête.
Franchement ça vous met dans une position pas... hyper à votre avantage.
Non, ça c'est sûr. Mais il y en a plusieurs. Je pense pas que ça soit le film dans lequel je puisse être vu comme.
Ça vous rend attachant en tout cas. Mais l'autodérision, comment on gère dans un film comme ça ces scènes
Moi j'adore ça. Moi, ouais. Moi j'ai toujours.
Rôle un peu humiliant. Quand j'ai vu le film, la salle était assez remplie et ça rit, mais ça rit de vive voix. Hein.
Ouais.
Donc ce film est à la fois, oui, assez dans l'introspection, il est assez mélancolique, mais très drôle aussi en fait.
Ouais, mais parce que c'est toujours ces moments-là de la vie qui sont toujours assez surréalistes. C'est-à-dire que quand on n'est pas en totale dépression, mais qu'on est dans un moment émotionnel un peu, on est un peu fragilisé. Il y a des moments où on se retrouve dans des situations totalement grotesques, absurdes, et qui peuvent nous faire rire parce qu'elles sont complètement décalées, en fait. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que ce type qui se retrouve avec des masques, des trucs, alors que il est pas bien. Et on vient lui demander des selfies alors qu'il est allongé sur une table de massage et que là, lui demande un
selfie. Et puis c'est maintenant, c'est pas.
Oui, parce qu'après elle pourra plus. Et donc.
Vous avez vécu ce genre de scène.
Oui, j'en ai vécu plusieurs.
Ouais. Comment vous les avez vécues? Dur? Pas des moments agréables?
Non, c'est des moments toujours un peu surréalistes. Moi, je me rappelle par exemple d'une période que j'ai passée à l'hôpital après un staphylocoque d'oreille. Et où je me réveille à un moment par un flash, parce que c'était à l'époque de ne le dire à personne,
ouais.
Et où il y avait encore des téléphones avec des flashs, et c'était la femme de ménage de l'hôpital qui m'avait pris en photo. J'étais les parties à l'air, si je peux dire, en restant poli, avec cette espèce de blouse, avec les jambes écartées comme ça, avec la bave, fatiguée, avec les perfs comme ça allongées. J'ouvre les yeux, elle était en train de me prendre en photo, donc j'imagine aussi avec mes glinges au premier plan. Et j'ai dit, mais on peut pas faire des trucs comme ça.
Ouais.
Elle me dit, mais c'est pour le souvenir. Et j'étais complètement atterré de voir qu'elle m'avait pris en photo dans cet état-là, en fait.
C'est plutôt chouette, la notoriété, mais c'est pas toujours drôle.
Non, c'est plus chouette. Il y a quand même beaucoup plus d'avantages que ces petits inconvénients qui sont pas si graves.
Et qui, finalement, quand on en discute après, on en rigole.
Ouais.
Quand votre personnage dit, à un moment donné, finalement, je ne suis qu'un type banal. Alors ça, c'est une phrase importante. Ça sent...
Ouais.
Alors, vous êtes un très bon acteur, mais ça sent vraiment le vécu. Il y a cette crainte, Guillaume Canet, chez vous, et là, c'est à vous que je pose la question.
D'être un type
finalement
banal.
Finalement, qu'un type banal.
Alors, moi, j'ai qu'une seule envie dans ma vie, c'est d'être un type banal.
Ah.
Moi, j'estime, et j'ai l'impression, en fait, que pour être acteur et pour pouvoir jouer des rôles, il faut être dans la vie de tous les jours et il faut être un type normal. En fait, je pense que quand on atteint des sphères à un moment qui sont un peu trop éloignées de la conjoncture, de la période, de la vie dans laquelle, dans la société dans laquelle on vit, je pense qu'on n'est plus du tout à même de retranscrire et de faire vivre un personnage. La force de ce métier, c'est d'observer, c'est de ressentir les choses et de pouvoir les retranscrire après à l'écran. Donc moi j'ai pas envie d'une vie de star, j'en ai jamais voulu, et d'ailleurs j'ai jamais organisé ma vie autour de ça. Vous m'avez jamais vu dans une voiture de sport arriver dans des soirées du métier. J'y vais de temps en temps quand je suis obligé d'y aller.
Imagine quand c'est pour des gens que vous aimez particulièrement.
Oui, voilà, en tout cas, c'est à chaque fois, c'est pas quelque chose que je fais avec grand plaisir, et je suis quelqu'un de plutôt discret sur ma vie privée. Je cherche pas cette notoriété. Je l'ai jamais cherché, en fait.
Et c'est difficile, ce choix de vie, de rester discret, de pas participer finalement à tout l'aspect paillettes.
Non, ce qui est difficile, c'est quand les choses vous échappent.
Un boulot du quotidien.
C'est quand les choses vous échappent, c'est quand les gens s'immiscent dans votre vie et viennent voler des moments de votre vie, comme j'ai eu, comme ça m'est arrivé de me retrouver chez les gendarmes, parce que le jour de la naissance de mon fils, un type rentre chez moi pour prendre des photos. Et c'est quelque chose qui me rend fou à ce moment-là. Donc oui, ces moments-là, ils sont difficiles, parce que c'est des moments qu'on vient vous voler. et que vous n'avez pas du tout envie de partager, et vous estimez que vous pouvez vous donner déjà beaucoup dans ce métier, on donne beaucoup. Et si on n'a pas des petits moments pour se nourrir de son côté, c'est pas possible.
Dans ce film, hors saison, il y a aussi une grande place pour la désillusion. La vie est malheureusement aussi parfois faite de désillusions. Vous, les moments de désillusion, comment vous les gérez? Ils vous nourrissent?
Ouais, ils me nourrissent. C'est pour ça que j'ai jamais rien regretté dans ma vie, franchement, même les mauvais choix. Parce que j'estime à chaque fois apprendre vraiment quelque chose. Et bizarrement, j'ai l'impression à chaque fois que ça me rend vraiment plus fort, en fait. Je suis quelqu'un de très sensible, donc forcément à chaque fois ça me touche, ça m'atteint, mais je me rends compte jusqu'à présent que je tiens le coup quand même, que j'arrive quand même à chaque fois à remonter la pente. Alors des fois c'est plus difficile que d'autres, mais globalement, je pense que c'est important aussi d'avoir des désillusions, parce que ça donne la foi, je trouve, ça donne l'envie, ça donne... Je pense que si on avait toujours tout, on serait blasé, en fait. Et dans ce métier, je pense que quand on travaille sur un film pendant 3, 4 ans, 5 ans, qu'il faut se réveiller tous les matins avec cette envie de travailler dessus, malgré les critiques, malgré l'angoisse, l'anxiété de se rater, il faut quand même avoir beaucoup d'envie, quoi. Et la désillusion, elle permet ça aussi. Elle permet aussi de se dire, ok, j'ai raté là, mais je vais me reprendre, quoi. Et je pense que l'échec est quelque part extrêmement important, je pense, dans la dimension artistique, dans la création. Je pense que je connais pas un artiste qui a pas échoué sur des choses et que ça l'a rendu plus fort, en fait.
Dans les zones d'ombre, il y a toujours des grandes failles. C'est ce qui fait aussi les grands destins.
C'est l'histoire de Marvin Gaye.
C'est exactement ce qui fait aussi les grands destins.
Alors qu'il est en perdition totale à Ostende, en Belgique, dans Camé, et qui, tout d'un coup, a une renaissance et qui écrit cet album sublimissime, quoi.
Stéphane Brisé dit de vous. Vous êtes prêts?
Ouais.
Ce qui résonne en moi, chez Guillaume Canet, c'est son infinie mélancolie. Je l'ai toujours ressenti comme un homme profondément triste, avec beaucoup de talent pour le dissimuler. Ça me touche énormément. Vous êtes d'accord?
Bah, je suis d'accord, je ne sais pas, c'est son sentiment.
Vous le prenez bien, alors?
Bah, je le prends bien, oui, ouais. Oui, bien sûr, je le prends bien. C'est son sentiment,
doux, hein,
c'est ce qu'il ressent. Mais je pense qu'il y a une part de vérité, en fait. Je pense qu'il y a une part de vérité. Je crois aux âmes, en fait. Je crois au potentiel et à la mémoire génétique que l'on a quand on naît. Et on peut naître avec une histoire derrière. Mmh. Et on le sait, d'ailleurs. Il y a des études génétiques extrêmement intéressantes.
Absolument.
Là-dessus, sur comment, de génération en génération, les choses se transmettent.
Des histoires se transmettent, ouais.
Et c'est vrai que... Et des schémas se reproduisent. Et c'est vrai que ça, par exemple, bah, je sais pas d'où ça vient forcément dans ma vie, mais je pense qu'il y a une part de mélancolie, de... Voilà, mais qui m'a fait beaucoup avancer dans ma vie aussi, et qui m'a permis aussi de faire toutes les choses que j'ai faites. C'est-à-dire que je pense que ce que j'apporte, par exemple, dans Ne le dis à personne, en écrivant l'adaptation, c'est peut-être aussi un peu de ma mélancolie et aussi un peu de cette part d'émotion que j'ai envie d'y ajouter. Les petits mouchoirs, pareil. Enfin, voilà, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été en moi pendant longtemps et que je retranscris de manière consciente ou pas à travers mon travail.
Je continue avec les mots de Brisé. Guillaume est un être bien plus complexe que ce qu'il semble peut-être être.
Oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr.
En quoi?
Les gens qui vivent dans mon entourage le savent. Je sais pas en quoi, mais je pense que oui, je suis assez complexe parce que je suis quelqu'un de très entier. Je suis quelqu'un de droit. Euh, et et j'aimerais qu'on le soit avec moi. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Et quand c'est pas le cas,
en tout cas,
voilà. Et quand c'est pas le cas, j'ai pu avoir tendance pendant des années à m'en plaindre ou alors à râler, à en être malheureux et du coup à culpabiliser ou juger les gens. Et si c'est ça, être complexe, bah peut-être que je l'ai été. Maintenant, j'arrive à un âge où je pense que j'ai plus de temps à perdre. Et non pas que je pense que je vais mourir demain, mais en tout cas, j'ai plus envie de perdre du temps, voilà, avec des considérations comme ça, et puis et avec des mensonges, avec la manière de se comporter avec moi, des choses qui me conviennent pas. Et du coup, ça m'a fait grandir en fait cette période-là parce que je me suis rendu compte que j'étais pas en droit de juger les gens en fait, de juger leur comportement. Et si à un moment j'estime qu'ils sont toxiques pour moi, bah c'est à moi de m'en aller en fait. C'est pas à moi de vouloir absolument changer les gens. Et donc du coup, bah j'ai fait un peu de ménage. Donc les gens me trouvent moins complexe. Et moi, je me sens vachement mieux.
Vous avez gardé que ceux qui sont en face.
Ça arrange tout le monde. En fait.
Ça m'amène parfaitement. Et après, je vous laisse tranquille avec les mots de briser, mais ceux-là, je les aime bien aussi. Le temps qui passe, lui, va bien. Comment vous le gérez, ce temps qui passe? C'est 50 ans. Ils vous font quoi, Guillaume Canet?
Moi, j'aime bien l'idée de mûrir, de vieillir. J'aime bien l'idée de mûrir... psychologiquement, j'ai l'impression franchement que je m'apaise, que je...
Ça vous a fait peur un moment? Ça vous a inquiété?
Jamais, non, ça m'a jamais fait peur de vieillir, ni physiquement, ni psychologiquement. Aujourd'hui, ça me fait plus peur physiquement, parce que, non pas par rapport à l'aspect, tout ça, j'ai pas de soucis par rapport à ça.
Par rapport à la santé, par rapport à la forme.
Mais ouais,
forme,
par rapport
quoi.
À la forme. Ouais. C'est-à-dire moi j'ai fait beaucoup de sport à la con, hein, on peut le dire, c'est-à-dire des sports dangereux entre l'équitation, la motocross, le paramoteur, enfin plein de choses où je me suis beaucoup fait de fractures, donc je suis un peu cassé de partout. Donc là aujourd'hui à une semaine, je peux vous dire la météo à peu près, vous voyez, au niveau des douleurs. Donc c'est ce vieillissement-là qui ne m'arrange pas du tout. C'est que j'ai pas envie de marcher en crabe dans 10 ans, quoi. Voilà, donc...
En note, bien sûr.
Je m'entretiens de plus en plus maintenant, mais c'est pas... c'est pas... Ouais, c'est, voilà, c'est la seule chose. C'est la seule chose, c'est le vieillissement du corps.
Vous parlez des sports à la con, vous continuez quand même, puisque l'équitation est toujours dans votre vie, alors...
Ouais, mais ça, je pourrais jamais m'arrêter de faire des trucs à la con comme ça, parce que j'ai besoin d'adrénaline, j'ai toujours...
C'est quoi le plaisir aujourd'hui dans l'équitation, dans le saut? Donc je rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore, même si c'est quand même assez sûr hein, que vous êtes très doué dans le saut d'obstacles.
C'est le rapport à l'animal déjà, évidemment, au cheval... Et puis effectivement la compétition à haut niveau, la petite appréhension qu'on a aussi avant de rentrer sur une piste avec des grosses barres, avec voilà, et puis tout ce que j'ai pu faire comme sport comme ça qui amène une certaine adrénaline, et je pense que ça m'amène ailleurs en fait. Ça m'amène pendant quelques minutes, secondes, ça m'amène ailleurs de mon quotidien, et ça me fait lâcher beaucoup de tension aussi, et on se sent foncièrement vivant. Je me rappelle de mon premier vol en paramoteur où quand ça faisait 3 jours que j'apprenais, à un moment il fallait juste appuyer sur l'accélérateur et décoller, et je me suis dit mais pourquoi je fais ça, et après quand je me suis posé, je me suis dit ok, je sais pourquoi j'ai fait ça, parce que tout d'un coup j'ai eu un shoot d'adrénaline énorme.
On peut le trouver, ce shoot d'adrénaline, dans des trucs un peu moins dangereux.
Oui, c'est vrai. Mais peut-être que je vais les trouver au fur et à mesure. Tout en vieillissant, je vais peut-être trouver cette adrénaline en jouant au tennis ou en faisant de la pétanque. Voilà, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est ça.
Vous étiez promis à une grande carrière sportive. Hein.
Ouais.
À un moment donné, vous espériez, j'imagine, devenir champion en équitation, dans le saut d'obstacle. Vous avez déjà raconté ça, mais je le rappelle, cette chute à 14 ans avec votre première jument, un trauma, oui. Puis une grosse blessure en compétition qui vous met en dehors du circuit. À quel moment, puisqu'on parle aussi des choix aujourd'hui avec ce film de Stéphane Brisé, à quel moment vous avez vraiment fait le choix de passer de l'équitation à l'acting?
À ce moment-là, en fait, il y a eu à 18 ans cet autre accident qui était là pour le coup assez grave, où je me suis pris du cheval sur
vous.
Moi.
Ouais.
Il s'est relevé sur moi, donc j'avais les trous de crampons dans le dos, dans la main, je me suis pété tout le côté droit. Et là, je me suis dit que j'allais. Ça faisait quelques années déjà que je faisais des petits films à la maison, comme ça, en Super 8, avec la colleuse dans ma chambre, avec la caméra vidéo. Et j'étais fasciné par la réalisation. Et c'est là, en fait, que j'avais eu, effectivement, à 14 ans, quand j'ai perdu ma jument de concours, où j'avais eu un vrai choc émotionnel à devoir l'euthanasier, alors que mes parents étaient pas là, j'ai dû prendre la décision, ce qui est, à 14 ans, hyper dur, d'avoir le droit de vie ou de mort sur un animal. Et du coup, je m'étais dit, je deviendrai cavalier professionnel pour elle et tout. Et puis bon, voilà, on grandit, et puis on se rend compte que finalement, aller faire 400 bornes tous les week-ends pour faire tomber une barre, des fois c'est un peu frustrant. Et puis on croise toujours les mêmes personnes, c'est un milieu quand même qui est très fermé. Un peu un milieu de cirque, hein, parce que d'ailleurs moi j'ai travaillé dans un cirque à l'âge de 16 ans, c'est un peu ça en fait. On passe de village en village, enfin de ville en ville, tous les week-ends, avec les mêmes personnes avec lesquelles on concourt. Et c'est un peu un milieu un peu fermé au bout d'un moment, quoi. Donc j'avais envie d'ailleurs, et je suis parti à Paris... à l'âge de 17-18 ans, et j'ai voulu voilà me lancer dans ce métier, donc j'ai fait des petits boulots, j'ai fait tout ça, mais ça a été vraiment un truc, la fracture, c'est le cas de le dire, enfin cet accident a été vraiment un truc de prendre comme un signe et de dire ok stop, je suis pas fait pour ça.
Double sens, la fracture de corps, mais
ouais. Et de me dire je suis pas fait pour ça, c'est pas
avec une vie quoi,
c'est pas le métier que j'ai envie de faire en fait.
La vie est structurée par des rencontres. Il y a eu celle avec Jean Rochefort, qui est très importante pour vous. Mmh. Quel acteur qui a si bien traversé les générations. Ouais. Quel regard vous avez sur lui aujourd'hui, Guillaume Canet?
Bah, il me manque énormément. Je pense très souvent à lui. Mmh. J'ai souvent sa voix que j'entends. Ses appels, souvent le dimanche soir, me manquent. Il m'appelait souvent le dimanche soir après... quand il y avait un film qui sortait, il m'appelait il me dit Chonchon. Il m'appelait Chonchon. Il me disait je viens au rapport.
Oh, comme quoi.
Et je viens au rapport et il me racontait son sentiment sur le film que j'avais fait et son avis. Voilà, et c'était toujours très très intéressant parce que.
C'était pas tout.
Il y avait des moments très positifs, et puis il y avait des moments, dis donc, tu t'es pas cassé. Et où il pouvait être très critique, mais c'était toujours avec beaucoup de bienveillance. Et il avait, voilà, un regard sur mon travail. Et je me rends compte du temps qu'il a pris pour moi. Et je trouve ça très touchant, parce qu'aujourd'hui, je vois ma position que j'ai. Et je vois que.
Vous pourriez faire pareil pour quelqu'un?
Bah, j'ai un rapport avec un jeune acteur qui s'appelle Anthony Bajon que vous connaissez,
oui,
que j'aime beaucoup beaucoup. Il a joué mon fils dans Nom de la Terre. Je sais pas si c'est ce qui nous a rapprochés, mais en tout cas, j'ai envie de le suivre. On se parle de temps en temps. J'ai coproduit son court-métrage, mais je l'appelle pas autant que Jean pouvait m'appeler. Donc c'est là que je prends la mesure de l'attention et de la bienveillance que Jean avait pour moi, en fait.
Qui sont vos piliers, aujourd'hui?
Mes enfants. Je trouve que, souvent, on prend des piliers plus âgés qui vous tiennent. Moi, j'ai l'impression que c'est très intéressant aussi de tenir avec le regard de gens plus jeunes,
Thibaut, ouais.
Qui ont une vision tellement sharp sur le monde, sur la vie, sur qui vous êtes, avec un don de médiumnité assez hallucinant et de capacité à... Et puis je parlais du mensonge, c'est des gens à qui on ne ment pas, les
pas
enfants.
Pas mentir, ouais.
En fait. Donc il y a un rapport extrêmement fort. Et c'est vrai que, ouais, ce sont... Ce sont Ce sont c'est ce qui motive aussi beaucoup dans la vie en fait.
Donc de vrais piliers.
Ouais.
S'ils étaient là, vous en avez deux. Qu'est-ce qu'ils diraient leur papa? Si je leur demandais comment vous décririez votre papa, à votre avis, qu'est-ce qu'il dirait?
Écoutez, franchement, je sais pas si j'en crois simplement les dessins qu'ils me font souvent ou les témoignages d'amour. Je pense que je suis un. Je sais pas, c'est pas moi de le dire, mais en tout cas, ils me disent souvent que je suis un très très bon papa.
Un très très bon papa.
Ouais.
C'est ça, c'est top. Vous avez été pendant une période au cinéma plutôt un mec de bande, on pense au petit mouchoir, pour passer à une vie, on en parlait tout à l'heure, de rock'n'roll ou de lui, plus de mec solitaire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Le mec de bande ou le mec solitaire?
Non, c'est fini les bandes. Non, j'ai des très très bons amis.
Merci, c'était sympa, mais vraiment, je peux plus vous voir.
Non, ça n'a rien à voir. Ah non, mais je parle même pas des petits mouchoirs ou tout ça. Je parle du
de
fait
la gestion.
Que... Ouais, mais il n'y a pas que ça. C'est l'investissement, en fait. C'est que des fois, on s'investit beaucoup, justement, pour des choses et pour des gens et créer une synergie et un groupe. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et en fait, on se rend compte que les gens, mènent quand même beaucoup aussi leur barque et c'est normal, c'est pas normal. Du tout un jugement hein, que je et les gens au moment n'ont plus envie aussi d'être assimilés à cette bande et ce qui est totalement compréhensible et du coup je pense que j'ai pris plaisir aussi à un moment à me retrouver avec moi-même aussi et ça c'est vraiment c'est vraiment agréable et de pas être, de faire les choses aussi un peu pour moi. Voilà.
Du Covid est né, vous en parliez tout à l'heure, ce film, lui, qui a fait, je vous cite, sortir le connard de vous-même.
Oui.
Vous êtes passé donc comme par une petite dépression. Le mot est OK?
Non, je dirais pas une dépression, mais une fulgurance en fait. Ça a été ce film, ça a été vraiment une fulgurance, c'est-à-dire que je me suis réveillé un matin. Et sans aucune explication, je suis descendu. C'était matin très tôt, mais on dormait. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai écrit lui.
Ouais.
C'est trois lettres, mais réellement, ça pourrait être
LUI.
Voilà, ça pourrait vraiment être un débarre de bouquins ou de films mauvais. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ces trois lettres lui. Et j'ai commencé à m'adresser à cette personne, c'est-à-dire ce connard, comme je l'appelle, qui m'a habité pendant très longtemps, trop longtemps, et qui me tirait vers le bas, qui me faisait de moi cette personne insatisfaite tout le temps, très dur avec moi-même, très exigeant. Et j'avais besoin à un moment de m'adresser à lui, en fait, en disant, mais à un moment, il faut que tu me laisses vivre, quoi. Il faut que tu me laisses avancer dans ma vie et tu peux pas me tirer vers le bas comme ça constamment. Et puis je savais pas du tout où ça allait me mener. Je pensais après que ça allait peut-être être une pièce de théâtre. Et puis finalement c'est devenu un film où j'ai rajouté des choses. Encore une fois, je précise parce que les gens ont tout mélangé en pensant que je parlais de mes histoires amoureuses, ce qui n'est pas
Allez-y,
le cas.
Vous l'avez fait, mais si vous voulez refaire une fois.
Mais
c'est une fiction.
Oui, c'est totalement une fiction, mais dans laquelle j'ai pu parler de ce double. Et je trouvais qu'en plus l'exercice cinématographique au niveau du style était intéressant de jouer les deux personnages et tout. Et donc voilà, c'est devenu un film. Mais j'aime vraiment foncièrement ce film parce que effectivement, ça a été une fulgurance. Je l'ai écrit en 3 semaines, je l'ai tourné en 4 semaines et ça a pas été une dépression, mais je pense que ça a été une vraie analyse pour le coup.
Le connard, il est plus là.
Non, il est plus là.
Il est vraiment parti. Il est dead.
Non, ça. Des fois, il repointe un petit peu. Je lui donne des coups en disant casse-toi.
Dans Hors Saison, c'est ma dernière question. Dans Hors Saison, sans tout dévoiler, les deux personnages ont l'audace de se parler, d'affronter leur histoire, de régler avec douceur, je trouve, des comptes pour en ressortir grandi, je crois. Qu'est-ce qui, vous, dans la vie, vous a rendu le plus meilleur, Guillaume Canet?
Bah, ce que je disais tout à l'heure, je pense les échecs, les remises en question, en fait, c'est très important de se remettre en question, d'avoir du recul sur qui on est, pourquoi. pourquoi on réagit de telle manière, pourquoi certains moments de notre vie nous rendent très nerveux, très angoissés, pourquoi on a ces choses-là, et on se rend compte que souvent c'est lié à des vieilles patterns, des choses.
On passe tous par ça en plus.
Bien sûr, mais après on passe tous par ça, mais on n'est pas forcément tous à l'écoute.
Égo dans la réaction.
Ouais, et à l'écoute de ça et d'avoir envie à un moment de se remettre en question. C'est pas facile de se remettre en question et d'accepter des tares que l'on puisse avoir. Enfin voilà, c'est pas toujours évident. Et je pense que c'est ça qui me rend meilleur, c'est de temps à autre d'essayer d'avoir une vision et de prendre un peu de recul sur ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, et voilà, ouais.
Hors saison de Stéphane Brisé avec vous et ouais. Alba Rohrwacher, c'est ce mercredi 20 mars dans les salles. On note bien sûr la magnifique musique de Vincent Delerme pour parfaire ce mélange de mélancolie et d'humour. Merci Chanchon.
Merci.
Merci Guillaume Canet. Merci. À bientôt sur RTL.
Merci.
Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel sur et avec Guillaume Canet. Merci à l'équipe qui m'accompagne. Réalisation signée Dany Matouk, texte de Thomas Pierre et programmation de Marie Conqui. Sachez que tous les épisodes de Confidentiel sont disponibles en podcast. N'hésitez pas, c'est sur l'appli RTL ou sur RTL.fr.
RTL.
Confidentiel.
Confidentiel.